Bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous. Il est 16h, temps universel, 17h ici à Paris.
Charlotte Hydrac.
C'est un cap symbolique dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes dépasse maintenant les 50 000 morts depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'organisation qui confirme la mort d'un haut responsable de son bureau politique, Salah al-Bardawi. En Turquie, le maire d'Istanbul, suspendu de ses fonctions et envoyé en prison pour des accusations de corruption. Ekrem İmamoğlu dénonce une exécution sans procès. Son arrestation a déclenché une vague d'énormes manifestations. À suivre aussi un bon signal pour Paris, réaction après les propos du président algérien. En pleine brouille diplomatique entre les deux pays, Abdelmadjid Tebboune estime que son homologue Emmanuel Macron reste l'unique point de repère pour apaiser les tensions. Et puis le pape François, de retour au Vatican, le souverain pontife a quitté l'hôpital après 5 semaines de soins. Il a fait une brève première apparition publique. Il reste en convalescence et devra lever le pied ces 2 prochains mois. Les habitants avaient reçu des tracts largués par drone pour évacuer le quartier dans la bande de Gaza. L'armée israélienne dit maintenant encercler un secteur de Rafah dans le sud du territoire où elle a lancé l'offensive ce dimanche. Opération aussi un peu plus loin ces dernières heures à Khan Younes où un dirigeant du bureau politique du Hamas a été tué. Yelena Tomic, l'organisation l'a confirmé.
Al-Bardawi, 66 ans, était une personnalité connue du Hamas qu'il avait rejoint dès sa fondation en 1987. Porte-parole du parti islamiste, auteur de nombreux articles sur la question palestinienne, un temps détenu par Israël en 1993, Al-Bardawi est élu en 2006 au Conseil législatif sur la liste changement et réforme du Hamas, puis devient membre de son bureau politique en 2021. Le mouvement islamiste a confirmé que Al-Bardawi et sa femme ont été tués dans une tente à Al-Mawassi, dans la région de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les médias proches du Hamas et des sources palestiniennes rapportent que l'attaque s'est produite dans une zone abritant des personnes déplacées, sans distinction claire, selon le ministère de la Santé de Gaza, entre combattants et civils. De sources médicales, 17 autres personnes, dont plusieurs femmes et enfants, ont été tuées lors de ces frappes.
Et le bilan total depuis le début de la guerre à Gaza a donc dépassé les 50 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Dans un message écrit, le pape François a exigé la fin des frappes israéliennes à Gaza. Le pape de retour au Vatican aujourd'hui après 5 semaines d'hospitalisation à Rome. Il est brièvement apparu en public au balcon à la fenêtre de l'hôpital. Il a pu bénir et saluer les fidèles venus en masse, Eric Sénanc.
C'est sous des viva il papa de près de 3000 fidèles et autres pèlerins venus à Rome, au pied de l'hôpital Gemelli, que François s'est présenté pour la première fois en public depuis le 14 février. Un salut et une bénédiction très attendus. Merci à tous, a-t-il lancé d'une voix faible mais souriant, remerciant notamment une femme venue avec un bouquet jaune et blanc aux couleurs du Vatican. Des images diffusées en direct, place Saint-Pierre, où des centaines de fidèles s'étaient aussi rassemblés, parmi lesquels Lorenzo, un jeune scout, heureux de voir le pape rentrer à la maison.
Sa maladie a beaucoup influencé notre façon de vivre à Rome, parce qu'une place Saint-Pierre sans le pape, ce n'est pas la même chose. Donc on est heureux qu'il revienne et qu'il puisse reprendre et assurer sa mission de paix.
Peu après sa bénédiction des fidèles, François a quitté en voiture l'hôpital Gemelli pour faire une pause à la basilique romaine Sainte-Marie-Majeure et offrir un bouquet à la Vierge qui s'y trouve, avant de rentrer au Vatican sous les acclamations de fidèles qui ont suivi le cortège amassé sur les trottoirs dans un enthousiasme qui rappelait la plupart de ses voyages apostoliques. Le pape va désormais suivre une convalescence d'au moins 2 mois dans sa résidence Sainte-Marthe au Vatican. Eric Sénanc, Rome, RFI.
En Turquie, le maire d'Istanbul, placé en détention, est suspendu de ses fonctions. Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption par la justice, lui dénonce une exécution sans procès. Nouvelle étape du bras de fer entre l'opposant et le pouvoir du président Erdogan, qui a déclenché des manifestations monstres ces derniers jours. Le parti d'Ekrem İmamoğlu a maintenu aujourd'hui une primaire pour l'introniser candidat à la prochaine présidentielle prévue en 2028. En Arabie Arabie Saoudite, un premier volet des discussions sur une éventuelle trêve en Ukraine sous l'égide des États-Unis. Elles ont débuté là, entre Ukrainiens et Américains, selon un participant de la délégation ukrainienne. Les échanges doivent porter notamment sur la protection des installations énergétiques critiques. Il y aura ensuite un second volet, un second temps demain, avec des discussions séparées entre Russes et Américains, toujours en Arabie Saoudite. Le Kremlin dit s'attendre à des négociations difficiles. Nous n'en sommes qu'au début, prévient son porte-parole. Dmitri Peskov affirme aussi que le principal sujet sera la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, un accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales sans évoquer un éventuel arrêt des combats. Le comité d'accueil l'attendait au Cap, l'ambassadeur sud-africain expulsé par les États-Unis, déclaré persona non grata la semaine dernière. Il est rentré chez lui aujourd'hui, sans regret, a dit Ebrahim Rasoul, qui avait qualifié la politique américaine de suprémaciste et accusé en retour par la diplomatie américaine d'être raciste et de haïr les États-Unis, de haïr aussi le président Trump. En France, la porte-parole du gouvernement parle de bon signal après les propos du président algérien hier soir à la télévision nationale algérienne, sur fond de tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Abdelmadjid Tebboude a fait un pas en déclarant:
je dirais trois mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique. Nous en garde comme point de repère et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension. Mais il reste le président de la République française. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir le ministre des Affaires étrangères. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble, c'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la télévision algérienne. Une vague de condamnations en France après l'agression d'un rabbin. En pleine rue, hier, dans la ville d'Orléans, il aurait reçu plusieurs coups violents. Une enquête a été ouverte, un jeune homme a été interpellé. Le président Emmanuel Macron a dénoncé le poison de l'antisémitisme, je cite. Réaction indignée unanimement dans la classe politique française, de la France insoumise au Rassemblement national. La fin ce dimanche du SIDAction en France, toujours grande opération de collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH, l'occasion aussi de sensibiliser à l'importance du dépistage. Valérie Cohen a rencontré Geneviève Grisper. Elle est ivoirienne, âgée de 41 ans, installée en France. Elle a découvert qu'elle était séropositive il y a 10 ans et depuis, écoutez son parcours.
Quand j'ai récupéré les résultats, ça m'a fait un choc. J'ai fondu en larmes. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir l'accepter. En fait, pourquoi je pleurais autant? Parce que le VIH, il est considéré comme si c'était ta vie qui avait basculé. Puis j'avais aucune information sur le VIH. Je ne savais pas que la médecine avait évolué. On pouvait se marier, on pouvait avoir des enfants bien portants. Du coup, pour moi, c'est mon monde qui s'effondrait. Je me suis tout de suite fait prendre en charge. J'ai été mise sur traitement, trithérapie directe. Hein. J'ai été suivie aussi psychologiquement. Les médecins m'ont beaucoup rassurée. Au bout de 3 mois de traitement, j'ai eu une charge virale indétectable. Quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH. Puis j'ai vu que tout était possible. Je pouvais poursuivre mes rêves, je pouvais avoir des enfants. Et en 2017, j'ai accueilli mon premier fils qui est très bien portant. Il n'est pas infecté. J'ai continué, j'ai croisé mon mari, on s'est marié, on a eu un deuxième enfant. Donc voilà, aujourd'hui physiquement je vais super bien, mentalement je vais super bien. Donc il faut très bien prendre les médicaments tous les jours et puis on a une vie normale en fait.
Voilà, on peut vivre avec le VIH grâce à la recherche, c'est le slogan du SIDAction et c'est du vécu pour Geneviève Grisper, propos recueillis par Valérie Cohen. De coéquipiers, ils se retrouvent adversaires, les frères Lebrun, Alexis et Félix, face à face en ce moment. Ça vient de commencer la finale en simple des championnats de France de tennis de table à Levallois-Perret, près de Paris. Un air de déjà-vu hein, l'an dernier déjà, et en 2023 aussi, il s'était retrouvé en finale et c'était l'aîné Alexis qui avait remporté le duel. Donc peut-être une revanche pour Félix et puis un autre rendez-vous sportif, le foot, ce soir au Stade de France. Les Bleus attendus au tournant pour le quart de finale. Retour de la Ligue des Nations face à la Croatie après leur défaite, une claque à l'aller. Pas le droit à l'erreur, coup d'envoi, 19h45, temps universel. Et le hockey dans tout ça, on n'oublie pas les patins, on en parle tout de suite avec vous, Hugo Moissonnier et toute l'équipe de Mondial Sport.